Bonjour et bienvenue, je suis Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un texte intitulé « Notre corps est merveilleux ». Pour prendre une analogie musicale, les lignes mélodiques de ce texte viennent des I, canalisées par Lee Harris, tandis que l'orchestration vient de ma connaissance de la psychologie des copersonnalités telle qu'elle m'a été enseignée par Hal et Sidra Stone. Associer ces deux enseignements me donne une compréhension de ce que nous sommes que j'ai grand plaisir à partager avec vous. Lorsque nous traversons une période de transformation rapide, comme c'est le cas en ce moment, comment avoir suffisamment d'espace, de paix et d'équilibre en nous-mêmes pour pouvoir être présent à notre vie? Surtout lorsque ces transformations affectent à la fois notre façon de vivre et la compréhension profonde de qui nous sommes. Prendre soin du corps est une réponse essentielle. Le corps est le lieu de rencontre entre notre partie humaine et notre partie divine. Notre sixième et septième chakras sont nos parties visionnaires, celles qui voient les différentes lignes temporelles et les choix possibles. Notre cinquième chakra et notre voix nous permettent de partager les informations que nous avons et d'en recevoir de nouvelles, d'amener aussi davantage de nous-mêmes dans nos relations. Le quatrième chakra, celui du cœur, c'est là où notre travail commence, amener notre conscience dans notre corps physique. Lorsque le chakra du cœur se connecte à l'âme, celle-ci a la capacité d'agir à partir du corps. Ce quatrième chakra est le point de connexion qui va nous permettre d'exprimer physiquement notre âme, d'exprimer dans un corps physique l'étincelle divine et l'être cosmique que nous sommes. Je vais vous partager ce que pourrait vouloir dire prendre soin du corps et le traiter avec amour. Je vais vous parler de l'endurance, de la maîtrise nécessaire dans cette sorte de marathon de la conscience dans lequel nous sommes plongés depuis quelques années déjà. Nous allons souligner à quel point la colère et la frustration, sentiments humains s'il en est, sont des pièges sur ce chemin, tout comme nos jugements sur les autres ou sur nous-mêmes. Nous allons dire quelques mots de cette sensation bien humaine, elle aussi, de ne pas être ce corps, avant de considérer les besoins et le pouvoir de notre corps. Enfin, nous allons nous permettre d'envisager une hypothèse, ce que pourrait être le jeu de la conscience dans toute son amplitude. C'est-à-dire, pourrions-nous devenir conscients de notre multidimensionnalité jusqu'à envisager comme possible une fusion physique entre l'être cosmique que nous sommes et ce corps humain construit pour cette expérience. Une expérience attendue, demandée et soutenue par toute une partie de l'univers, même si elle a été largement retardée. Alors, commençons par le point 1, prendre soin du corps. D'une certaine façon, nous pourrions considérer le corps comme la batterie de l'âme. Comment notre âme pourrait-elle s'exprimer si la batterie est déchargée? Reconnaître que nous avons un corps, le traiter avec amour, lui permettre régulièrement de se recharger est un premier point important. Trop souvent, nous traitons notre corps en objet qui doit nous obéir, voire en esclave. Ou disons plutôt que notre équipe dirigeante, l'actif, le spirituel, celui qui valorise avant tout le service aux autres, l'observateur-contrôleur, toute cette équipe le traite en esclave. Or, en ce moment, nous sommes, comme nous l'avons dit, dans un marathon. Prendre du repos, des moments de pause, est vital. Vital pour tous ceux qui sont engagés dans ce marathon du développement de la conscience et qui souvent sont déjà fatigués par tout ce qui s'est passé ces dernières années. L'endurance que demande tout marathon rend ces moments de repos ou de pause absolument nécessaires. Est-ce que j'aime mon corps tandis que je lui demande de courir ce marathon énergétique? Est-ce que je le traite avec amour? Prendre soin de ce corps, c'est lui laisser le temps et l'espace pour se réparer. Se réparer lorsque nous avons dépassé ses limites, lorsque nous ne nous sommes pas arrêtés à temps. Cela n'appelle aucune critique. De nombreuses raisons émotionnelles font que nous laissons notre équipe de choc aux commandes de notre vie. Et il existe de nombreuses bonnes raisons de dépasser nos limites. Heureusement, il existe également de nombreuses façons d'améliorer notre état de santé physique et psychique et d'éviter de dépasser nos limites lorsque nous devenons conscients de l'importance d'avoir un corps en bonne santé et des batteries rechargées. Préparer le corps est une chose. Prendre soin de lui pour ne pas avoir à le réparer peut aussi s'avérer une très bonne idée. Nous pouvons être attentifs à notre corps au quotidien, vérifier régulièrement que nous ne sommes pas en train d'agir sans nous soucier de lui, ou de le maltraiter, ou de le charger d'énergie ou de pensées négatives, ou encore de le contraindre, de le restreindre, ou de lui demander sans cesse de s'adapter. Lorsque nous sommes dans des moments où les traumas de l'enfance ressurgissent, notre corps a encore plus besoin de détente, de respiration, de repos. Lui donner en abondance de l'espace, du confort, du temps, des soins, va lui permettre de libérer le stress et les émotions stockées dans nos muscles, nos tendons, nos os, nos organes, et nous permettre d'intégrer notre histoire pour pouvoir la laisser aller. Ces moments où les traumas de l'enfance ressurgissent sont aussi des moments où nos champs énergétiques demandent à être nettoyés, vivifiés, nourris, que ce soit par le contact avec la nature, la musique, l'art ou par un environnement aimant qui nous soutient. Point 2. Développer notre patience et notre endurance. Les transformations par lesquelles nous passons en ce moment nous demandent de développer notre patience et notre endurance. Il n'est en rien facile de se décaler régulièrement des schémas de comportement qui ne nous servent plus ou qui ne servent plus ce que nous désirons devenir. Nous avons besoin de nous recréer, de nous recentrer sur nous-mêmes en prenant en compte nos nouvelles énergies, celles qui, souvent, pour des raisons d'adaptation justement, ont été mises au placard pendant toute une partie de notre vie. Ces transformations nécessaires ramènent à la surface un certain nombre de peurs que nous allons devoir traverser, sans pour cela mettre en route les scénarios que notre mental adore nous répéter depuis toujours. Cela même qui nous ont amenés à abandonner les énergies dont nous avons besoin maintenant. L'énergie instinctive, l'énergie sexuelle, la joie, le plaisir de vivre, notre spontanéité, notre créativité. L'important n'est pas la vitesse à laquelle nous pouvons courir. L'important est de savoir à quelle vitesse nous pouvons courir tout en étant attentif à notre corps et à nos champs énergétiques. Comment ne pas crisper nos muscles, détendre notre mâchoire, se nourrir correctement, se reposer suffisamment? Comment récupérer après un chaos émotionnel? Comment mettre à distance le critique, le juge, le patriarche et le parent psy? Nous ne pouvons plus leur permettre de prendre soin de nous avec des discours ou des règles qui visent à nous améliorer ou à nous faire prendre conscience que les entendre, les rassurer, négocier et reprendre notre pouvoir, celui de penser par nous-mêmes et de faire des choix différents de ceux de nos deux lignées et la nouvelle actualité. Nous ne pouvons pas non plus mettre notre asset, notre coach sportif ou notre partie invulnérable aux commandes. Pas plus que notre altruiste qui fera toujours passer le service aux autres avant le service à nous-mêmes. Apprendre à nous regarder avec des yeux bienveillants, apprendre notre valeur, retrouver la confiance dans ce que fait spontanément notre corps et ce qui nous servira le plus. En bref, cela se résume à sortir du système primaire que nous avons construit pour nous adapter. Ce système nous a coupé de notre corps, de nos émotions et les dévalorise. Aujourd'hui, cela nous handicape. L'endurance demande un ego conscient et respectueux de nos forces et de notre vulnérabilité pour que nos ressources soient correctement évaluées et notre valeur réévaluée. Elle demande d'avoir un œil sur comment alléger notre vie, alléger nos règles, alléger notre emploi du temps. Dans le passé, lorsque nous décidions d'enfreindre une règle que nous nous étions donnée, c'était souvent parce qu'une prise de conscience nous faisait changer de comportement. Aujourd'hui, cependant, il arrive que cela vienne directement de notre champ d'énergie. Lorsque notre champ énergétique enfreint une de nos règles, c'est que nous ne pouvons tout simplement plus faire ce que nous essayons de nous imposer. Notre corps n'est plus d'accord. Respecter notre corps devient incontournable, tandis que nous posons les bases de 2025 et au-delà. C'est une nouvelle naissance, collective et individuelle, qui se profile au sein d'un chaos qui ne cesse et ne va cesser de s'accroître. Il doit jouer son rôle, déconstruire ce qui doit être déconstruit pour que la nouvelle conscience que nous créons dans nos personnalités, dans nos vies, dans nos relations, puisse s'étendre et se diffuser. Point 3. Colère et frustration. Nous pouvons nous sentir en colère, frustrés par la vie que nous menons ou par tout ce que nous voyons dans le monde extérieur, ou par les deux. Mais lorsque nous mettons trop l'accent sur la colère et la frustration à cause du monde extérieur, il est toujours bon de regarder ce qui se passe en nous. Aucun de nous n'est altruiste au point de n'être consterné que par ce qui arrive au reste du monde. Nous sommes liés à ce monde. Et même si nous nous considérons comme l'une des personnes les moins centrées sur elles-mêmes qui existent, il y a toujours un niveau de focalisation sur nous-mêmes lorsqu'il s'agit d'être en colère contre le reste du monde. Lorsque nous ne prenons pas soin de nous, nous projetons notre vulnérabilité sur les autres. C'est la voie dangereuse de l'empathe. L'empathe vit en ressentant les émotions de tous. En fait, il n'a pas passé assez de temps avec ses propres émotions et sa vie est plutôt chaotique. Il peut aider une personne, puis une autre, amener son aide à une situation, puis à une autre, comme s'il était une balle de flipper, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il peut être là pour lui. Ce talent, l'empathie, peut devenir un réel pouvoir lorsque l'empathe ne dirige plus la personnalité. Suis-je dans un ego conscient de la valeur de l'aide aux autres et de la valeur de prendre soin de moi, ou dans un système primaire, une identité réactive, voire une identité de survie? C'est une bonne question à se poser régulièrement. Lorsque nous nous apercevons que nous basculons souvent dans les jugements, la colère, la frustration, nous devons oser 1. Nous reposer, 2. Vivre davantage. Si la colère et la frustration sont des émotions dominantes chez nous, c'est qu'une partie de nous sait que nous ne sommes pas pleinement vivants. Nous restreignons notre force vitale, notre joie. Nous avons perdu notre curiosité. Peut-être ont-elles été piétinées au cours de notre enfance ou plus tard, mais nous devons les retrouver. Laisser la colère et la frustration devenir une réponse calcifiée, enroulée autour de nous comme une écharpe pour tenter de nous protéger de nos émotions, ne donne pas une vie palpitante. La colère et la frustration, en tant que réaction temporaire, font partie de notre humanité. Se retrouver en colère et frustré de temps en temps pendant quelques instants est plutôt normal. même si avec le temps nous pouvons devenir beaucoup plus fluides. Mais en tant que mode de réponse aux événements de la vie, en tant que vêtement que nous portons à longueur de journée, c'est un poids trop lourd et cela nous demande de regarder ce qui se passe. Sous la colère et la frustration se cache généralement une tristesse qui veut être entendue, qui veut être ressentie et libérée. Seulement, personne n'écoute une personne en colère. Personne n'aime la colère. Et cette mise à distance ne fait qu'animer encore plus notre colère. Nous portons un poids très lourd, que nous tenons au-dessus de notre tête dans l'espoir qu'il ne nous tombera pas dessus et ne nous écrasera pas. C'est risqué, dangereux et inconfortable. Nous ne sommes plus dans un espace d'équilibre, un espace de ressources. La vie ne se résume pas à ces énergies. Et lorsque pour une raison ou une autre nous sommes pris à leur piège, il est temps de nous autoriser à vivre et à trouver des raisons d'être heureux. Et devoir trouver des raisons d'être et de vivre nous semble tout aussi ennuyeux. Il est possible de commencer petit. Si nous aimons les fleurs, nous pouvons aller nous asseoir dans un jardin et nous concentrer sur celles que nous trouvons les plus belles. Peut-être n'éprouverons-nous aucun bonheur à le faire, mais nous nous dirigeons dans la direction de la vie. Nous mettons notre attention sur ce qui peut nous donner de la vie et de la lumière. C'est à nous qu'il incombe d'initier le tournant. Ensuite, les gens, les événements, ce qui se manifeste autour de nous, commenceront à se synchroniser. Lorsque nous sommes en colère et frustrés, nous ne pouvons plus laisser entrer quoi que ce soit. La colère et la frustration ne sont pas les grands amis de pensées comme « je m'autorise à recevoir » ou « je crée avec la lumière ». Lorsque vous tentez de penser « je m'autorise à recevoir », la partie frustrée et en colère répond « eh bien, je ne vois vraiment pas ce que je peux recevoir aujourd'hui ». Et puis si j'ouvre ma porte, cela peut être encore pire ensuite. Je sais d'expérience que l'on ne peut faire confiance à personne. Et quand il s'agit de « je crée avec la lumière », la colère et la frustration ont aussi beaucoup de choses à dire. C'est très bien de dire que tu crées avec la lumière, mais je ne vois pas beaucoup de lumière dans le monde et je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Je n'ai pas vu beaucoup de lumière dans ma vie non plus. Sous l'amertume et le ressentiment se cachent de la rancune et de la tristesse. Nous ne pouvons pas encore accéder à cette tristesse ou à ce chagrin. La colère et la frustration se sont installées et constituent une armure féroce. Bien sûr, la colère peut parfois être une bonne façon de poser des limites nécessaires lorsque nous devons nous opposer à quelqu'un ou à quelque chose. Cela peut être acceptable. Il peut même exister, dans ce cas, une certaine tristesse consciente à le faire. Il s'agit d'une réaction qui nous traverse, s'évacue et se termine. Mais lorsque la colère devient un mode de vie, le monde devient sombre et nous ne voulons plus y vivre. En fait, le monde est un espace à plusieurs niveaux, avec son obscurité, sa lumière, sa douleur, sa souffrance et sa joie. Le monde est tout. Il est juste temps de taper doucement sur le plastron de notre armure pour retrouver le contact avec notre cœur. Nous pouvons le faire en trouvant les petits riens qui nous font plaisir et nous amènent de la joie. Même si dans un premier temps, elles ne produisent pas un réel sentiment de bonheur. Il nous faudra être un peu disciplinés. Nous n'en avons pas vraiment envie. Mais le choix est le suivant. Rester sous la cuirasse et mourir à petit feu ou commencer à l'éroder doucement avec un peu de discipline. Lorsque la colère et la frustration sont notre mode de vie, notre corps ne répond plus. Il est engourdi, gelé, il se sent abandonné. Ce n'est bon ni pour notre morale, ni pour notre santé. Lorsque notre corps ne sent pas que notre âme et notre conscience sont avec lui, lorsque nous avons perdu la foi dans l'idée du bonheur personnel, il commence à perdre de l'énergie, à se fragiliser, à se désynchroniser. 4. Cesser la guerre intérieure. Ce dont notre corps a besoin, c'est d'avoir autour de lui de vastes champs d'énergie lumineuse. Notre corps a besoin de savoir que nous prenons soin de ces champs. Ne pas laisser notre critique attaquer les autres ou nous attaquer fait partie de prendre soin de notre corps et de nos champs énergétiques. Si notre critique nous dit que nous n'allons pas très bien en ce moment, nous ne sommes pas en bonne santé, nous nous nourrissons mal, nous ne respectons pas notre routine, nous ne faisons pas assez d'exercice, etc., etc., il est préférable de ne pas le prendre comme conseiller, de ne pas entrer dans une histoire de jugement et de honte. Bref, de revenir à la conscience que nous faisons de notre mieux et ne pas nous laisser attaquer. Nous ne ferons pas ce qu'une partie de nous, avec laquelle nous sommes d'accord, nous conseille de faire tant qu'elle pèse moins lourd que la partie de nous qui a de tout autre désir. Lorsque cette partie plus sage que nous aimerions mettre aux commandes se sera suffisamment développée, lorsqu'elle aura pris du poids, la situation changera. Alors, plutôt que de rester assis à regarder la situation comme un match de boxe pour lequel nous gaspillons une bonne partie de notre énergie, acceptons ces deux parties différentes. Plutôt que de nous lamenter sur ce que nous ne faisons pas, affirmons ce que nous faisons. Je suis en paix avec le fait que je ne fais pas cela en ce moment, même si je garde de l'espace pour le faire à l'avenir. Cela libère les tensions, l'énergie recommence à circuler et nos dissonances commencent à guérir au sein d'un ego plus conscient. Nos différentes parties sont reconnues, nous sommes une équipe. Un jour, nous nous réveillons et réalisons que nous ne considérons plus 3 croissants et 3 tasses de café comme un petit déjeuner nutritif. Nous attendions ça depuis des années. Cela semblait impossible à changer et tout d'un coup, suffisamment de choses ont bougé en nous et ne plus prendre ces 3 croissants et ces 3 tasses de café le matin n'est plus un problème. Nous avons suffisamment évolué pour que la personne en nous qui voulait de la caféine et du gluten, quitte à en assumer les conséquences, ne soit plus aussi présente. Il se peut même qu'elle commence à s'intéresser davantage aux conséquences de ce comportement sur notre santé. Il n'est pas nécessaire de se culpabiliser, simplement de laisser le but qui est le nôtre se manifester dans notre vie lorsque ce sera le moment pour toute la personnalité. En fait, certaines parties de nous ne veulent pas du tout avoir une vie saine. Elles ne sont pas intéressées non plus par avoir une routine. On peut les comprendre et ne pas leur faire la guerre. Après avoir cessé la guerre intérieure, il va falloir aussi cesser la guerre extérieure. C'est notre point 5. Lorsque nous ne comprenons pas le raisonnement ou le comportement d'une personne, essayons de comprendre au moins le pourquoi de ses actions, ce sur quoi elle se concentre ou se focalise. Nous pouvons ne pas être d'accord avec son comportement ou ses méthodes, mais peut-être sommes-nous d'accord avec ce qui les motive. Des comportements peuvent être opposés quand les raisons qui les motivent sont les mêmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Disons que Claire est une mère très protectrice et elle rencontre Jeanne, qu'elle juge très agressive envers tout le monde. Claire juge ce comportement. Il ne correspond pas à ses valeurs. Pourtant, la raison du comportement de Jeanne vient aussi de son besoin de protéger ses enfants. C'est ainsi qu'elle pense être une mère protectrice. Claire y voit de l'agressivité, Jeanne une protection. Peut-être Jeanne agit-elle comme les personnes qu'elle a côtoyées dans son enfance. Personne ne lui a montré une autre façon de faire. Ou encore, elle n'a pas la liberté de choisir des comportements plus nuancés. Même si nous pouvons être agacés ou en colère contre certaines personnes et la façon dont elles agissent, conserver notre énergie sans les juger ou les critiquer est le meilleur parti à prendre. Pourquoi ? Parce que chacun fait de son mieux. Et parce que nous sommes des coureurs de marathon, conserver notre énergie est important. Il s'agit de conscience et d'endurance. Une façon plus consciente d'agir est de se concentrer sur ce que notre corps ressent et de prendre conscience que derrière tout jugement existe un malaise, une vulnérabilité. Alors, plutôt que de juger, nous pouvons accepter de ressentir ce malaise, cet inconfort, la peur, la tristesse, parfois le désespoir qui existe sous nos jugements. Lorsque nous nous donnons la permission d'être conscients de ce qui se passe dans notre corps, de ressentir les énergies qui se bloquent, le stress, les tensions qui se manifestent, nous pouvons prendre conscience des émotions associées à ces contractions et à ce stress, et surtout, nous pouvons devenir conscients des pensées qui les génèrent. Nous pouvons ressentir tout cela sans jugement, ni sur nous, ni sur l'autre, et en devenant conscients, si nous le désirons, nous pouvons penser différemment, rassurer notre part émotionnelle et permettre à ces énergies de se remettre en mouvement. Nous pouvons intégrer tout ce que nous sommes, toutes nos expériences et revenir à l'unité. Nous pouvons accepter que même les énergies de basse fréquence, chez nous ou chez l'autre, font partie intégrante de la source. Tout jugement nous coupe de la source et de notre lumière. Toute perception de ce qui se passe dans notre corps nous ramène à nos blessures et à la possibilité de les apaiser, de les réconforter et de ne pas s'y accrocher. Il existe un certain sentiment de supériorité autour du fait de pouvoir analyser l'autre, ou encore d'être calme, de savoir communiquer, d'avoir un bon régime alimentaire, une routine que l'on suit, une discipline personnelle. Et tout cela est très bien, mais c'est aussi un peu ennuyeux. Vivre avec des règles, suivre une routine stricte, est quelque peu ennuyeux pour certaines parties de nous. De plus, nous ne sommes pas tous faits pour être pondérés, zen, avoir un régime végétarien, faire du yoga ou de l'exercice 2 heures par jour. Nous sommes tous différents. Pouvons-nous accepter cette différence? Certains ont peut-être 10 ou 15 kilos en trop et n'aiment pas faire de l'exercice ou avoir un régime alimentaire sain. Certains parlent fort, certains sont naturellement plus agressifs, mais il est possible qu'ils aiment la vie, qu'ils s'y sentent bien, et c'est leur talent. D'autres, certes, ont été trop blessés et leur personnalité s'est vrillée. Les reconnaître, savoir les gérer, est certainement un défi pour notre monde actuel. Point 6, je ne suis pas ce corps, et pourtant. Je ne suis pas ce corps est une phrase que l'on peut entendre dans les milieux spirituels. Assez ironiquement, nous ne pouvons penser ainsi qu'en tant qu'être humain. Et ce n'est pas tout à fait la réalité. Notre corps n'est pas simplement un contenant. Nous sommes aussi ce corps. Nous sommes une âme incarnée sur terre. Une âme qui s'est associée à un corps pour vivre ce qu'elle désirait vivre, l'expérience de la conscience dans un corps dense qui a sa propre conscience. Beaucoup regardent le monde et, considérant son manque d'évolution, souhaiteraient être ailleurs. Mais qu'en serait-il de penser qu'être humain est une passerelle vers l'évolution? Qu'être humain n'est pas un inconvénient, mais une magnifique porte d'entrée vers l'évolution, enviée par nombre d'âmes qui n'ont pas la chance d'avoir un corps. Qu'en serait-il de penser que nous sommes ici pour transformer et élever notre planète en nous transformant et en nous élevant nous-mêmes, que notre travail consiste à faire descendre la conscience dans un corps physique? C'est aussi glorieux ou ennuyeux et aussi simple que cela. Nos défis, nos hauts et nos bas font de nous ce que nous sommes et ce que nous devenons. Notre corps fait sa part de travail. Il fait tout ce qu'il peut pour protéger notre essence et nous maintenir en vie afin que nos systèmes physiques et énergétiques fonctionnent. Nous pouvons le remercier et prendre aussi conscience de l'être qui habite ce corps. Le chemin parcouru est important. Cette importance n'est pas due à tout ce que nous avons fait, mais à ce que nous sommes. La découverte de la puissance de l'être qui habite ce corps amène un changement de cap. Bien sûr, toutes nos actions ont construit et construisent notre monde. Nous mesurons le plus souvent ce que nous sommes ou ce qu'est une personne à ses actions. Et la plupart d'entre nous n'abandonneront pas ce pouvoir de faire et d'agir. Cependant, avec tant d'attention mise sur le pouvoir de faire, l'équilibre demandé aujourd'hui est de mettre notre attention sur l'être. L'être incarné dans ce corps, associé à ce corps conscient. D'où l'attention aux soins à apporter au corps et au fait de dénoncer clairement ce qui lui nuit, voire d'y renoncer lorsque cela ne nous demande pas trop d'efforts. Dans le monde extérieur, comme à l'intérieur de nous, se sont développés des systèmes de survie qui servent quelques-uns, mais certainement pas l'ensemble. Ces systèmes sont maintenant obsolètes. De nouvelles informations sont diffusées qui permettent davantage de santé, de vitalité, de liberté. Mais à l'extérieur, comme à l'intérieur, le système ancien ne veut pas mourir. Pour ce qui est de notre système intérieur, nous pouvons reconnaître sa valeur, le fait qu'il nous ait amené jusqu'ici, nous pouvons le remercier, être plein de gratitude pour lui, mais nous ne pouvons plus lui laisser le pouvoir. Point 7. Notre corps est merveilleux. Notre corps nous permet de chanter, de danser, de peindre, de marcher, de courir, de nous émerveiller, de sentir, de toucher, d'aimer. C'est grâce à lui que notre esprit et notre âme sont sur terre en ce moment. Grâce à ce corps, il est notre allié et il est extraordinaire. Il arrive parfois que notre plus grand pas de croissance ait eu lieu à une époque où nous faisions, disons, n'importe quoi. Parfois, toucher le fond a marqué le début de notre évolution de conscience. Cependant, lorsque nous ne voulons plus nous suicider à bas bruit ou nous refermer sur nous-mêmes, nous engourdir ou nous abrutir, nous arrivons à un point où nous pouvons avoir suffisamment de ressources pour marcher sans éteindre la lumière à chaque fois que la peur se lève en nous, sans avoir besoin de l'obscurité pour tenter d'éviter de ressentir les traumas de l'enfance. Il ne s'agit pas d'embrasser l'inverse, de devenir absolument rigoureux sur tout. Il s'agit de faire alliance avec notre corps, d'accueillir la vie en nous et de lui faire confiance. Le confort, le plaisir, l'abondance est un chemin magnifique pour nous permettre de faire descendre la conscience dans notre corps. Même si, bien sûr, il n'existe en fait aucun mode d'emploi, aucune méthode qui soit valable pour tous. Je vais cependant vous proposer une affirmation. J'aime mon corps est une affirmation qui nous permet de savoir où nous en sommes dans l'amour de nous-mêmes. Lorsque nous pouvons dire que nous aimons notre corps, les choses se posent. La façon de le traiter, individuelle, propre à chacun, devient plus claire. Aimer ce corps, le trouver beau, même si nous ne ferons jamais la couverture d'un magazine, est doux et réconfortant. Nous rendre compte que nos corps sont puissants, beaux, uniques, spéciaux, tous, quelle que soit leur forme, leur taille, leur type, sortir de l'illusion que la beauté répond à certains critères, à certaines normes, c'est sortir de la dictature que notre société, associée à certaines parties de nous, nous impose. Il a pu exister des moments où nous avons détesté ce corps, où nous avons détesté l'état de santé ou l'environnement dans lequel nous nous trouvions. Ou peut-être avons-nous toujours été critiques avec notre apparence, à cause de certaines moqueries, de paroles dévalorisantes reçues dans l'enfance, et nous avons développé des normes esthétiques très pointues, en plus de certaines croyances. En fait, notre apparence n'est pas notre affaire, c'est celle des autres. Même lorsque nous exerçons des professions dans lesquelles notre image est une source de revenus, même dans ce cas, notre apparence n'est pas vraiment notre affaire. Elle est là pour que les autres puissent nous identifier. La plupart d'entre nous a choisi de revenir dans cette vie avec des types de corps et des visages qui, bien qu'attirants, ne sont pas nécessairement à couper le souffle. Nous avons pu faire ce choix après avoir eu des vies dans lesquelles nous avons été trop objectivés ou trop célébrés pour notre apparence. Nous avons choisi dans cette vie de vivre d'une manière plus discrète. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aimer ou nous préoccuper de notre corps. Cela veut dire que nous ne désirons pas qu'il attire toute l'attention des autres. Nous en avons fait l'expérience, nous en connaissons la face cachée. Point 8. Le pouvoir de notre corps. J'aime mon corps. Arriver au point où nous pouvons ressentir la réalité de cette affirmation est une grande avancée. Certains ont parcouru un long chemin pour en arriver là. Notre corps est merveilleux parce qu'il nous permet d'être présent. Notre corps est beau parce qu'il nous permet de vivre. Il a encaissé des coups, subi des traumas. Il ne s'est pas arrêté pour autant. Lorsqu'enfant, nos proches nous blessaient émotionnellement ou physiquement ou abusaient de nous, notre cœur ne s'est pas arrêté. Notre corps n'a pas mis fin à notre vie. Il a encaissé les chocs comme il le pouvait et nous avons continué de rire et de chanter. Alors que même avec un corps d'adulte, il peut nous être extrêmement difficile de ressentir la souffrance et les émotions liées à ces traumas d'enfance et à les surmonter. Pour nous protéger, notre corps a pu se fermer, se contracter. Il nous a gardés en vie, même si cela signifiait accepter de porter certaines blessures, voire certains handicaps. Certains se regardent aujourd'hui et constatent « Je n'ai jamais eu confiance en moi et cela continue. Mon père me battait, ma mère ne me défendait pas et je n'arrive pas à croire que j'ai de la valeur. J'ai honte d'être aussi timide. » Ok, effectuer un travail avec quelqu'un qui nous aide à inverser l'empreinte traumatique est nécessaire. Mais aimer notre corps qui a pris le parti de se replier sur lui pour survivre est encore plus nécessaire. Notre corps, quelles que soient ses blessures ou les éclats d'obus qu'il recèle, est extraordinaire. Nous seuls savons comment le traiter, mais une constante demeure. Le traiter avec amour, traiter les copersonnalités qui se sont développées avec amour et ne pas croire nos juges et nos critiques. Lorsque nous n'avons pas confiance en notre corps, en découvrir les raisons est important. Notre corps ne nous a jamais trahis. Il s'est adapté car c'était la seule voie de survie. Lorsque nous nous sommes coupés de notre corps, lorsque nous avons du mal à le comprendre, à en prendre soin, à accepter les émotions qui le traversent, lorsque ces émotions nous semblent pathétiques ou inappropriées, lorsque nous détestons notre comportement, lorsque nous avons perdu notre pouvoir, le pouvoir spontané du corps, sa fierté d'être et d'exister, nous devons nous pencher sur notre enfance. Notre corps a vécu un certain nombre de traumas, certains connus, répertoriés, d'autres qui dorment ou se manifestent de façon incompréhensible ou difficile pour nous. Reconnaître en ces manifestations les séquelles de traumas encore inconnus nous permet de sortir des jugements sur nous-mêmes, puis de libérer les poches de peur, de colère, de rage ou de méchanceté que ces traumas ont pu entraîner. L'inceste, la maltraitance physique ou verbale existent dans de très nombreuses lignées. Ces comportements ont semé dans nos corps la honte, l'humiliation, la terreur, le désespoir et la haine de nous-mêmes. Reconnaître à quel point tout cela est présent et se perpétue encore aujourd'hui, reconnaître dans notre personnalité les copersonnalités qui en résultent, s'en désidentifier, s'en décaler, nous permet d'accepter ce qui nous est arrivé et de continuer notre chemin avec davantage d'indulgence pour les blessures de notre corps et les raisons pour lesquelles la confiance en lui s'est perdue. Nous traçons un chemin pour nous et pour les autres. Bien sûr, quand nous pensons « j'aime mon corps est magnifique », Certaines parties de nous font la grimace, car ce n'est pas leur réalité. Prendre cependant cette phrase comme un mantra, qui peut cicatriser nos blessures, nous aide à nous décaler de ce système autoritaire et dévalorisant qui existe en nous et que nous allons chercher peu à peu à réformer. Toute notre histoire humaine, la douleur, les jugements, l'expérience de la méchanceté, les injures entendues et répétées par nos critiques, toutes les fois où nous nous sommes regardés dans le miroir en nous détestant, en souhaitant que ceci ou cela soit amélioré, tout ce triste jeu avec nous-mêmes, tout cela peut se terminer lorsque nous voyons et remettons en question nos parties primaires, autoritaires, jusqu'ici toutes puissantes. C'est notre travail de conscience et personne n'a dit qu'il était facile. Il arrive aussi que nous n'aimions pas notre corps parce que nous sentons que nous n'avons pas encore répondu à l'appel de notre âme. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Lorsqu'arrive à nouveau cet appel, lorsque nous pouvons y répondre, c'est un appel au sensoriel, au plaisir, à la joie, à l'amour, à la passion de vivre. Et nous pouvons mettre tout cela dans nos vies grâce à notre corps. Notre corps est magnifique car c'est à travers lui que nous pouvons nous transformer et influencer les autres et le monde. Nous ne pouvons pas vivre au niveau de l'esprit, de la conscience non incarnée et provoquer un quelconque changement. Nous pouvons y rêver, nous pouvons organiser les choses, mais c'est le corps qui permet au changement de se produire. Guérir notre corps, prendre soin des enfants intérieurs en tenant à distance leurs juges et leurs tyrans, change notre monde intérieur. Cela change nos projections sur le monde extérieur, cela influence notre voisinage immédiat, nos relations, notre monde individuel, puis, au-delà, le monde entier. Nos corps sont puissants, ils sont une somme d'interactions inouïes entre la matière et la lumière. En raison de notre conditionnement, nous avons du mal à reconnaître notre nature lumineuse. Nous avons du mal à nous percevoir comme un aspect de la source, comme l'expression d'un être divin, d'un être de lumière. Sauf lorsque nous plongeons profondément dans nos royaumes intérieurs et nous relions à la source. Point 9. Devenir conscient de notre multidimensionnalité. Nous pouvons devenir de plus en plus conscients du fait que nous vivons dans plusieurs dimensions simultanément. C'est possible déjà en raison des multiples copersonnalités qui nous constituent et du fait qu'elles ne vivent pas toutes dans le même espace-temps linéaire. Certaines vivent encore dans notre passé, d'autres dans un futur qu'elles perçoivent comme proche. Cela peut signifier que le même jour et parfois au même moment, nous pouvons avoir des expériences différentes et des regards différents sur ce que nous vivons. Nous pouvons, par exemple, percevoir à la fois un avenir prometteur qui commence à se construire et que tout s'écroule autour de nous. Les deux perceptions peuvent être simultanées. De plus, nous ne sommes pas limités à la vie sur cette planète. Nous sommes des êtres cosmiques qui voyageons chaque nuit. Nos identités sont multiples et simultanées. Certains s'en souviennent comme ils se souviennent qu'avant même toute identité, ils sont une âme restée proche de la source. Commencer à ressentir, identifier et se connecter à la diversité des énergies qui vivent en nous, chacune avec ses propres perceptions, points de vue et informations, est une bonne façon de vivre. Nous connecter aux anciens « je » et aux nouveaux « je » « je », à leurs besoins très différents, à leur façon différente d'être, de sentir, de penser. Rester souple, tenter de ne plus prendre des décisions définitives, nous demande de ne pas être complètement épuisé par la vie que nous menons. Maintenir notre conscience à deux endroits à la fois, ou plus, nous demande de prendre des pauses dans nos activités et autant de repos que nécessaire. Cela nous demande également de discipliner notre mental pour qu'il n'accapare pas toute la place. Une des raisons pour laquelle il peut être problématique de déconsidérer les énergies de basse vibration est qu'elles font partie de la manifestation. Elles sont issues de la source et une part de la source réside en elles. C'est la même chose pour ce que nous nommons les énergies noires. Il existe certes une énergie noire sur Terre, dans des personnes, des lieux ou des zones créées par certains groupes. Elle existe, mais même l'énergie noire fait partie de la manifestation et elle peut se transformer. Cette énergie noire peut être libérée et ramenée dans la lumière. Cela ne veut pas dire qu'il en sera ainsi. Mais tout jugement, toute séparation en bien ou mal, vrai ou faux, juste ou injuste, pose problème lorsque nous commençons à vivre et comprendre notre multidimensionnalité. Restons légers. Ne faisons pas de nos opinions diverses et variées quelque chose de statique et de lourd. Ne laissons pas les opinions de certaines de nos copersonnalités nous influencer outre mesure. Regardons en revanche toute énergie comme sacrée, car faisant partie de la source. Agissons ainsi pour nous-mêmes, tout comme lorsque nous observons une autre personne et interagissons avec elle. Une personne peut dire quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord, mais son énergie est-elle agressive? Nous met-elle mal à l'aise? Si c'est le cas, cela peut nous demander de mettre certaines limites, sans pour cela juger cette énergie ou cette personne. Ou l'énergie est-elle assez souple et même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été dit, a-t-elle plutôt un effet positif sur nous? Elle ne nous envahit pas, ne nous perturbe pas. Nous pouvons alors sourire, hocher la tête, ne rien dire ou dire à la personne avec gentillesse que nous ne sommes pas d'accord avec elle, mais que nous respectons ses opinions et ses choix et que nous apprécions qu'elle les partage. C'est la même chose avec nos énergies intérieures, ne pas être d'accord, agir différemment, mais ne pas les juger. Nos méditations aujourd'hui incluent le corps. Nous avons souvent commencé à méditer en sortant du corps ou en nous reliant uniquement au troisième œil ou au chakra couronne. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à faire l'expérience du feu électrique dans notre corps, des énergies qui tourbillonnent dans nos champs énergétiques, des racines qui nous relient à la terre, des énergies qui nous relient les uns aux autres. Notre tête, notre corps, nos champs énergétiques, notre esprit, nos mémoires, l'être divin et l'être humain forment de plus en plus un tout indissociable. Point 10 et dernier point, aller vers notre nature humaine et cristalline. Un être humain et un être cosmique ou galactique émettent des vibrations très différentes. L'un est un être de chair, ancré dans un corps, fait pour créer des liens et ressentir des émotions. Comme l'explique Nassim Haramein, sa conscience et sa biologie sont fondamentalement liées, des informations passent de l'une à l'autre. Nous faisons l'expérience du monde et nous l'interprétons à travers ce que nous appelons notre conscience. Et nous renvoyons dans le champ quantique à travers la nature infinie de notre être, des informations qui viennent de ces expériences. Le champ à son tour réagit et ainsi de suite dans une rétroaction continue. Nous expérimentons donc l'univers à travers notre conscience et toujours selon Nassim, la conscience est un champ d'informations qui se déplace à travers une matrice biocristalline. Nous pouvons considérer notre conscience comme un cristal dans un poste radio qui capte certaines fréquences d'informations très spécifiques dans la structure de l'espace. Nassim et son équipe ont même pu initier le calcul de l'énergie que notre biologie doit puiser dans le champ électromagnétique fondamental qui nous entoure pour que le flux d'informations qui passe à travers la matrice biocristalline de nos êtres infinis produise de la conscience. L'être cosmique ou galactique a, lui, une vibration plus proche de celle du cristal. Elle contient davantage de lumière, c'est-à-dire davantage d'informations. Ce qui nous est proposé aujourd'hui sur Terre est donc de rester pleinement humain, tout en animant la version cristalline de nous-mêmes. C'est-à-dire de nous souvenir de notre origine cosmique et de laisser cette identité fusionner avec l'identité humaine, cette brève identité que nous avons construite pour vivre sur cette Terre. Nous pouvons nous souvenir de notre champ d'énergie cristalline qui est une couche au-delà du champ d'énergie humain traditionnel et en revenant ainsi à notre conscience cosmique, permettre cette fusion. Nous sommes tous beaux, comment serait-il autrement? Un nouveau corps énergétique humain est en train de naître et l'une de ses strates est cristalline. Notre corps actuel est celui grâce à qui nous pouvons devenir cette version cristalline de l'être humain. Une version à la fois plus informée, donc plus lumineuse, et plus sensorielle, plus consciente de ses perceptions et émotions, capable de les réguler, de prendre soin du corps et de co-créer avec l'âme et l'esprit. Une version beaucoup plus en phase, en fait, avec ce dont le corps physique a besoin pour maintenir son niveau d'énergie tout au long de ce voyage qui a pour but la création d'une nouvelle conscience. Grâce à ce corps, nous pouvons devenir un ambassadeur de cette version cristalline de l'humain, un enseignant pour ceux qui nous entourent, même si nous ne parlons pas de cette transformation qui se fait en nous. Lorsque nous sortons de tout ce qui tente continuellement d'abaisser l'être humain, lorsque nous affirmons sa beauté et la beauté de ce à quoi il est destiné, nous portons dans nos auras cette relation profonde à l'être cosmique que nous sommes et à travers lui, à l'unité. Nous nous libérons de la séparation et de la division qui ont été semées dans la race humaine. Je suis un être cosmique dans un magnifique corps humain. Je suis ici pour l'amour et l'unité avec tout ce qui est. Merci de votre écoute. Vous retrouverez tout ceci dans le numéro 127 de Voz Dialogue, le numéro de février 2025. C'était Véronique Brard, enseignante en Voz Dialogue et en processus de conscience.